Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver sur RTL, la première radio de France. Ça va Sidonie?
Très bien Thomas, bienvenue à tous pour cette dernière curiosité du soir de l'année.
Ah oui, curiosité du soir, parce qu'on sera quand même sur RTL demain à 14h. N'oubliez pas, soyez là. Alors le programme de cette dernière soirée de curiosité 2016.
Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est doux.
Un petit coup, c'est doux. J'ai pas commencé, je vous rassure. Mais on va boire un grand coup. On va déguster des grands crus. On demandera à nos invités de nous expliquer ce qui fait le sel d'un grand vin et de nous en faire déguster et apprécier quelques-uns.
Personne n'a bu dans ce studio, je vous le promets. On va parler de la baraka, de la chance, celle qui a permis à Abba d'aller au sommet. Peut-on la provoquer, la manipuler ou même l'acheter? Pourquoi certains sont plus chanceux que d'autres? On vous dira tout.
Et maintenant, dans la curiosité sur RTL, le rideau se lève sur les comédies musicales.
I'm singing in the rain, you're singing in the rain.
RTL. Jusqu'à 22h.
For a small fee in America.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des comédies musicales mythiques que vous avez peut-être regardées pendant ces vacances, ou alors des comédies musicales que vous allez découvrir peut-être pour le nouvel an, le Trois Mousquetaires, Oliver Twist, Le Rouge et le Noir, ou encore Notre-Dame de Paris. Alors comment sont nées les comédies musicales il y a 150 ans? Quels sont les chefs-d'œuvre du genre? On va raconter leur histoire. Bonsoir Alexandre Avelot.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes journaliste et l'auteur de Musicals, histoire de la comédie musicale, c'est chez Chronique Édition. Alors un des pionniers du genre est français, il s'appelle Jacques Offenbach.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je t'en reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela?
La vie parisienne est jouée à Paris, on est en 1866, il y a donc 150 ans. On parle pas encore de comédie musicale, ça on parle de quoi? D'opérette? C'est quoi la différence?
Alors, d'opérette, et encore là, on se fait déjà des ennemis parce que beaucoup considèrent qu'Offenbach, c'est pas du tout de la comédie musicale. Et pourtant, je le dis, je le répète, c'est le début de la comédie musicale. C'est-à-dire ce moment où, à la fin du 19e, eh bien, on mêle les différents arts, le chant, la danse, le théâtre. Et puis tout d'un coup, la musique, dite opératique, eh bien, disparaît pas parce que la musique d'Offenbach est extraordinaire, mais le jeu prend le dessus. C'est-à-dire que ça devient du théâtre musical. D'ailleurs, je préfère le terme de théâtre musical pour aujourd'hui que comédie musicale, presque, c'est plus général.
Et donc, cette opérette théâtre musical, comédie musicale d'Offenbach raconte quoi en quelques mots? C'est une satire, non?
C'est une satire du Second Empire, c'est-à-dire que c'est le moment où la haute société se fait dégommer à tour de bras, c'est le mélange, c'est un peu comme Molière en fait, c'est les petites gens face à la France d'en haut, la France d'en bas, c'est un petit peu les thèmes d'aujourd'hui aussi.
Et c'est savoureux.
Et c'est savoureux, et ce qui est savoureux aussi, grâce à vous, Alexandre Avelot, c'est qu'on va traverser l'Atlantique dans les deux sens pendant toute la soirée,
sans arrêt.
Puisque pendant qu'en France, on crée la vie parisienne avec Offenbach, aux États-Unis, c'est la même année, à New York, qu'est créé The Black Crook. Alors, c'est quoi et comment naît cette comédie musicale?
Et ben là encore, c'est des Françaises. Entre guillemets, c'est une troupe de danseuses parisiennes qui sont en tournée, parce qu'il ne faut pas oublier que ce nouveau monde, c'était des Européens, en tout cas sur la côte Est au départ.
Qui avaient immigré,
donc,
oui.
Ils ont emporté avec eux leur culture, notamment des opérettes. Et donc à New York, il y avait déjà des tas de spectacles d'opérettes, des tas de grands spectacles. Et il y avait au Niblo's Garden, qui était une salle de 3200 places. Il faut imaginer ce que ça donne, hein. c'est pas un théâtre. Déjà les jauges aujourd'hui, 1500 personnes, c'est beaucoup. 3200, c'est beaucoup plus. Et alors ils avaient une pièce de prévu, très bien. Et puis les producteurs de cette tournée de danseuses parisiennes ont un problème, le théâtre a brûlé, le leur. Donc, ils se mettent d'accord avec les producteurs de ce spectacle qui était déjà écrit pour dire, est-ce que nos danseuses pourraient interpréter et venir sur scène?
On rajoute des danseuses à un spectacle qui était prévu pour ça.
C'est un spectacle qui dure 5h30, 17 tableaux, mais qui mêle finalement une histoire assez sérieuse, c'est une relecture du mythe de Faust. Alors c'est pas passionnant, je vais pas vous le résumer, parce que je vais me perdre, je vais me faire des ennemis.
Mais il y a des belles danseuses.
Mais il y a des danseuses. Et donc on mêle le théâtre, du chant, de la danse, et donc ça fait un mélange, 5h30 de spectacle.
Mais est-ce que Alexandre Avelot, à cette époque, à New York, en 1866, Broadway existe déjà, cette rue avec tous ces fameux théâtres?
Oui, cette rue, cette diagonale, parce que finalement c'est quadrillé, hein, New York, pour ceux qui y ont été.
Puis, oui, bah, c'est la seule rue qui va de travers.
C'est la seule rue où on se perd, parce que tout d'un coup on n'a plus le même repère, on sait plus où on est, on est complètement paumé. Donc oui, elle existait déjà, enfin, New York se construisait, cette artère était déjà là.
Et alors c'est un fameux fabricant de cigares, Oscar Hammerstein, qui va dessiner Broadway tel qu'on la connaît aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui va créer tous ces théâtres?
Il y a quelques-uns, c'est pas le seul, il y a d'autres financiers qui sont mis là-dedans, mais c'est vrai que lui, ça a été l'un des premiers, un des pionniers à acheter des gros bâtiments et à en faire des centres de vaudeville. Pas de vaudeville comme on l'entend en France, hein. Vaudeville, c'est des numéros un peu de foire mis bout à bout, et lui va présenter ces spectacles-là, et puis il y aura aussi des restaurants, il y aura des tas de choses dans ces temples du divertissement.
Alors la toute première vedette de Broadway, c'est George McCohan, acteur, producteur, dans notamment ce spectacle Little Johnny Jones.
Did you ever see two Yankees part upon a foreign shore? When the good ship's just about to start for old New York once more with tears.
Give my regards to Broadway. Ça va devenir un hymne, en quelque sorte.
C'est l'hymne de Broadway, c'est-à-dire que cet homme qui est né c'est un enfant de la balle, il a fait les tournées avec toute sa famille, et bien est devenu l'emblème, le premier entertainer de Broadway. Et d'ailleurs, il a sa statue à New York. C'est devenu le modèle à suivre.
Il y a un autre grand personnage de la comédie américaine, c'est le roi Ziegfeld. On dit que c'est l'impresario le plus redouté et célébré de Broadway. Qu'est-ce qu'il va créer pour mériter ce titre?
Il va créer le modèle des comédies musicales américaines, c'est-à-dire les Follies. Les Follies qui sont la jointure entre le vaudeville, les numéros dont je vous ai parlé, et puis ce qui se passait en France à ce moment-là, c'est-à-dire les Folies Bergères et les grands cabarets. Et il va mélanger ces deux choses-là pour emmener des girls avec des numéros. Et ça fait des spectacles extraordinaires qui s'appellent Les Follies, un par an.
Il va aussi lancer un compositeur qui va devenir un géant, Irving Berlin.
Just like a beautiful melody, she'll play on the strings of your heart.
A pretty girl is like a melody.
Une jolie fille, c'est comme une mélodie, c'est tellement vrai. La comédie musicale, née en France et aux États-Unis au même moment, et pourtant, c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle va vivre et vite atteindre son apogée. Tout de suite, on vous raconte comment le magicien d'Oz a tout changé.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ces fêtes de Noël, c'est une période idéale pour aller voir des spectacles, pour aller au théâtre, voir des one-man shows ou des comédies musicales. Et ça nous a donné envie avec Sidonie de raconter justement l'histoire de ces musicals. Histoire de la comédie musicale, c'est aussi le titre du livre de notre invité Alexandre Ravelot. C'est publié chez Chronique Éditions. Alors on se balade, hein, on l'a dit, de France jusqu'aux États-Unis. Là, on va être aux États-Unis avec une comédie musicale qui est, comment dire, un concentré de talent. Bon, il y a qui? Il y a Fred et Adèle Astaire. Ça s'appelle Lady Be Good.
Listen to my tale of woe. It's terribly sad but true. I'm all dressed up and no place to go. This evening I'm awfully blue. I must wear some winsomeness. Can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you.
On est en 1919. C'est quoi? C'est le début d'une carrière gigantesque, celle de Fred Astaire. C'est grâce à cette comédie musicale qu'il démarre, qu'il se lance.
Si vous voulez, c'est une carrière, c'est plus qu'une carrière gigantesque. C'est un monument plus qu'historique, enfin, je sais pas ce qu'il faut dire. Mais c'est quelqu'un qui a commencé très jeune et qui a fait beaucoup de spectacles avec sa sœur, Adèle, qu'on a eu tendance un peu à oublier,
vrai,
au profit de Ginger Rogers, forcément. C'est classique, mais oui, c'est l'un de ses premiers spectacles, bien sûr.
Qui signe la musique?
Gershwin.
Ah oui, quand même.
C'est comme ça qu'il débute.
Ça calme aussi.
Dans la comédie musicale, Gershwin?
Oui, 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 c'est un compositeur, c'est un jeune compositeur à ce moment-là. Il a composé beaucoup de comédies musicales derrière, mais c'est toujours compliqué parce que lui, c'est comme la comédie musicale, il est inclassable. Parce qu'on ne peut pas dire que Porgy and Bess, qu'il a composé en 1936, ce soit vraiment une comédie musicale, et pourtant c'en est une. C'est la jonction, opéra, comédie musicale. Voilà, c'est un auteur
oui,
multiple.
Ce qu'on entend là entre les mots, c'est que c'est un genre que.
Personne n'est capable de me dire ce que c'est une comédie musicale. Ouais. Alors moi, j'essaie
mais
de résumer.
Mais c'est
de
pas du grand opéra, vous voyez ce que je, voyez
ah
ce
non,
que je veux dire.
C'est pas un noble.
Donc c'est un peu...
Si, c'est noble, c'est...
Ah oui.
Bien sûr, mais...
Est-ce qu'on l'assume
voilà,
de composer pour une comédie musicale.
C'est compliqué. Ouais.
Alors pendant que Fred Astaire fait des claquettes aux États-Unis, pendant ce temps-là en France, c'est l'opérette légère qui plaît au public.
Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère.
On a ressorti notre gramophone hein, pour l'écouter. Il y a le souffle, il y a le grain, il y a tout ce qu'on veut.
C'est le gramophone de notre réalisateur André Facetta. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. C'est interprété évidemment par Maurice Chevalier. Le nom de la comédie musicale, c'est
Dédé.
Ah bah tiens, c'est spécial dédicace.
C'est bien fait.
Un autre Dédé.
On ne sait pas souvent d'où ça vient. Et il y a beaucoup de comédies musicales, on ne sait pas d'où ça vient, les titres.
Enfin, ah bon
on sait pas, il y a beaucoup de titres, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça vient de comédies musicales souvent. Bah, celle-ci, ça vient de Dédé.
D'accord.
Et pourquoi cette opérette, c'est une révolution dans le genre en France ?
C'est la jonction un petit peu des rythmes chaloupés américains, il y a un côté jazzy quand même, donc ça veut dire que déjà on essayait de s'inspirer un petit peu de ce qui se faisait outre-Atlantique parce que c'était pas si mal, et puis en même temps c'était notre héritage quand même, et puis on a mis du vaudeville, mais pour le coup le vaudeville français, c'est-à-dire une histoire théâtrale, et donc c'est un peu le mélange aussi de tout ça, c'est aussi un cocktail cette comédie musicale.
Puisqu'on n'arrête pas de prendre le transatlantique, est-ce que la France est un peu en retard ? Toujours sur les États-Unis, qui copie qui ?
Il y a un gros problème avec la France, c'est qu'on a laissé croire à tout le monde que la comédie musicale était américaine, et que nous, on a fait de l'opérette. Envie de tirer un grand trait d'union, parce que l'opérette, c'est de la comédie musicale. Alors pour certains, elle est ringarde, pour d'autres, elle est intellectuelle. Je pense que c'est un style de comédie musicale. Donc en fait, ça n'a jamais quitté notre continent, et ça s'est développé en parallèle entre les États-Unis et la France. Et aujourd'hui, on se retrouve.
Et puis un film qui a eu un impact considérable sur l'histoire de la comédie musicale, que ce soit aux États-Unis ou en France.
Le magicien d'Oz, évidemment, Judy Garland dans le rôle de Dorothy, on est en 39. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette chanson, déjà, pour commencer ?
Elle n'était pas franchement prévue. Et d'ailleurs, aux projections test, ils l'ont composée un peu au dernier moment, et puis avant le tournage, évidemment. Et puis aux projections test, les gens trouvaient qu'elle n'était pas très rythmée, qu'elle cassait un peu.
Ah, le fameux « ça va pas marcher ».
Ouais, c'est-à-dire que bon, elle ralentit tout, quoi. Ça sert à rien, cette chanson qui expose une situation, une rêverie, ce qu'on veut. Bon, et puis finalement, ils l'ont gardée, et c'est une bonne idée.
Vous racontez dans votre livre musical que Le Magicien d'Oz va inspirer de nouvelles comédies musicales. Pourquoi ça donne un souffle comme ça ?
Alors, d'abord, il ne faut pas oublier que Le Magicien d'Oz, c'est la réponse de la MGM à Disney pour Blanche-Neige et Sept Nains. C'est-à-dire que c'était juste avant Blanche-Neige et ils se sont dit « mais comment on va faire pour réagir ? C'est quand même extraordinaire, il y a quelque chose à faire, à construire. » Donc c'est pour ça que c'est du technicolor, c'est des couleurs dans tous les sens. Et c'est très enfantin aussi comme univers, forcément, c'est de la littérature jeunesse, vous me direz. Mais du coup, ça a bousculé un peu tout ça et ça a ouvert les portes de la comédie musicale aussi. Au cinéma, alors il y en avait déjà avant, mais ça s'est vraiment développé à partir de là.
Au point de créer quoi ? Des départements
Des départements entiers, la MGM.
Consacrés à la comédie musicale,
c'est ça ? Oui, la MGM qui était le plus grand studio d'Hollywood à ce moment-là. Oui, forcément, il avait tous les corps de métier, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient là-bas. Donc il y a eu un département de comédie musicale.
Les années 40, les années 50 nous attendent, ça tombe bien, c'est l'âge d'or de la comédie musicale. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La belle de Cadix a des yeux de velours.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout ce que l'âme a gémolé. Tout ce que l'âme a gémolé.
Jusqu'à 22h.
2h.
A pretty girl.
Sidonie Bonnec.
Is like a melody.
Thomas Hugues.
On a envie de souhaiter un joyeux anniversaire à la comédie musicale, ce genre né il y a 150 ans en France avec Offenbach et La Vie parisienne. Et au même moment, chose incroyable aux États-Unis, à Broadway, on vous raconte son histoire avec le journaliste Alexandre Ravelot qui publie un très beau livre, Musicals, histoire de la comédie musicale. C'était chez Chronique Édition. Alors, On l'a dit, Broadway a inspiré le cinéma, Offenbach a inspiré les États-Unis, et les comédies musicales sont partout, partout dans les années 40-50 sur les planches. Écoutez cet extrait d'Un Américain à Paris. Un Américain à Paris, c'est un film de Vincente Minnelli, à l'affiche Gene Kelly et Leslie Caron dans une scène finale mythique, elle dure 18 minutes. Mmh. Qu'est-ce qu'on y voit ?
De la danse, un ballet sur des toiles de la peinture française. Ça dure 18 minutes, effectivement, ça paraît être un tunnel, comme ça, sur le papier. Et je pense que les producteurs ont dû avoir
on essayé de couper,
froide.
C'est ça ?
Ouais. Et finalement, ben non, ça passe comme une lettre à la poste et c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que ce film, d'ailleurs, a eu autant d'Oscars et sûrement autant de succès.
Combien d'Oscars en 1951 ?
Alors, j'ai pris ma petite fiche, je crois que c'est 6.
Ah oui, c'est pas mal.
Meilleur film. Hein.
Philippine, on a dit le même mot, même moment. Meilleur film pour un Américain à Paris. Donc, film sorti en 51, 6 Oscars et Gene Kelly. Gene Kelly qui, lui aussi, devient quoi ? La mégastar, c'est ce film qui le lance définitivement ?
Oui, il était déjà bien lancé, attention, ouais. Mais il répondait à Fred Astaire. C'est-à-dire qu'on dit toujours que Fred Astaire, c'était le dandy et que Gene Kelly, c'était l'homme. Quoi. C'était
un peu le bad boy.
Exactement. Et il a eu cette obsession.
Mais ils ont cohabité, parce qu'on a vu tout à l'heure que Fred Astaire était déjà en 19 sur scène. Donc il a une belle longévité quand même. En 51, il est encore là pour faire le match avec Gene Kelly.
Il a eu un coup de mou. Ouais. Il était chez RKO. Et puis quand finalement ça s'est arrêté chez RKO, il s'est un petit peu reculé de tout ça. Et puis il est revenu sur les devants de la scène, et c'est effectivement à ce moment-là, avec Gene Kelly, c'était les deux stars. Donc c'est vrai qu'il y en avait un qui était un tout petit peu plus âgé que l'autre.
Alors là, on est dans les années 50, il y a beaucoup de comédies musicales, de films comédies musicales. Est-ce que ça fait de l'ombre aux comédies musicales du théâtre, de Broadway ?
Ah mais pas du tout, c'est-à-dire que là aussi à Broadway, c'est le moment, c'est l'âge d'or, c'est-à-dire que les productions, elles jouaient 1000, 2000, 3000 fois, enfin sur la durée, hein, et ça n'en désemplissait pas, c'est-à-dire que c'était le style, enfin c'était la sortie, c'était le style affirmé du spectacle américain.
Avec des duos, on a vu Gene Kelly et Leslie Caron dans Un Américain à Paris, c'est fréquent ça, les duos, les grands duos hommes-femmes dans les comédies musicales, ça repose sur c'est ça
même, j'ai même envie de dire que ça fait partie des codes de la comédie musicale, non ?
Oui, mais si on reprend finalement, enfin, plutôt côté coulisses, c'est plutôt des hommes et des hommes, souvent malheureusement. Enfin, je veux dire, Stanley Donen et Gene Kelly, c'était un duo, réalisateur et un danseur. Mmh. Betty Comden et Adolf Green, c'est un garçon et une fille, scénariste pour le coup. Roger Hammerstein sur scène, enfin, les auteurs, c'était deux hommes. Voilà, après, c'est interchangeable quand même. Fred Astaire a dansé avec beaucoup de partenaires, Gene Kelly également. Je ne veux pas dire que c'était les hommes qui menaient la danse, mais il y avait quand même plutôt des mecs.
C'était encore la touche féminine, c'est ça ?
Exactement.
Je crois que c'est l'expression qu'on adore. Avec Sidonie. En tout cas, en 1952, le public américain découvre ce qui va devenir le film le plus populaire de toute l'histoire du cinéma musical.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Alors on a la scène tout de suite devant les yeux.
Il danse son amour.
On l'a tous joué, on l'a tous fait en plus.
Il danse, voilà, c'est
avec
ça.
Avec son parapluie, c'est ça,
un jour de pluie.
Tous, mais oui.
On a cru qu'on savait danser et on s'est gamélé, évidemment.
Minable.
Mais bon, ça, c'est pas grave. On n'est pas là pour raconter notre vie. On se dit succès gigantesque. Et pourtant, succès qui n'a pas été immédiat.
Oui, il n'y a pas eu d'Oscar particulier. Il y a eu un bon succès, mais c'est venu avec le temps. C'est toujours pareil. Les œuvres cultes, comment elles deviennent cultes, c'est toujours un petit peu compliqué.
Avec un peu de temps. Et pendant ce temps-là, dans ces années 40-50 en France, à Paris, on vient écouter ça.
La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix nous invite à l'amour. Les cavaliers nous sont là, si dans la postala, on a franqué de danse. Et pour ces jolies yeux noirs, les hidalgo nous soient bien de tente la chance.
La belle de Cadix avec Luis Mariano qui chante, composé par Francis Lopez. Alors aujourd'hui, son nom nous dit peut-être pas grand-chose. C'est pourtant la star, le compositeur du moment qu'il faut aller voir au théâtre à Paris.
Exactement, la route fleurie, Andalousie, Méditerranée, le chanteur de Mexico. Enfin, tout le monde connaît ses refrains par cœur. Alors là, on a l'impression que c'est désuet. tout d'un coup Francis Lopez, et pourtant c'est pas du tout désuet quand c'est traité de façon moderne, c'était pas du tout désuet à l'époque, et c'est sûrement le compositeur qui a réuni le plus de Français dans les salles.
La comédie musicale ne cesse de se métamorphoser, elle s'adapte aux époques, le show continue dans un instant, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les 10 commandements, les 3 mousquetaires, Oliver Twist, Le Rouge et le Noir, Notre-Dame de Paris pendant ces vacances, vous avez eu et vous avez encore l'embarras du choix pour aller voir une comédie musicale. En tout cas, ça nous a donné envie ici à La Curiosité de raconter l'histoire des musicals, donc côté américain et côté français, avec le journaliste Alexandre Ravelot. Musicals, c'est le titre de votre livre qui est publié chez Chronique Édition, je le rappelle. Allez, on s'offre encore, il y en a tellement, encore un chef-d'œuvre du genre, écoutez.
I like to be in America, okay by me in America, everything free in America,
for a small fee in America.
Okay.
West Side Story, tout début des années 60, on est en 1961, 10 Oscars, on a battu le record.
Ça doit être pas mal, 10 Oscars.
Je crois. Alors, comment on raconte l'histoire de West Side Story? Est-ce que, dès le départ, c'est un projet de comédie musicale?
Alors, pour résumer, c'est Roméo et Juliette, une relecture de Roméo et Juliette à New York,
entre
des Portoricains et des Américains.
Et c'est une comédie musicale qui se joue à Broadway à l'origine?
Exactement, oui, évidemment, c'est une comédie musicale. Ça a été adapté à l'écran parce que c'était un succès, mais c'est une comédie musicale de scène.
Donc, dès le départ, c'est prévu comme tel. Pourquoi est-ce qu'elle marque l'époque? En quoi elle se différencie des autres comédies musicales?
C'est une rupture parce que la danse prédomine et raconte... fait avancer l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mots qui nous permettent de comprendre les liens entre les personnages, c'est la danse.
Peut-être aussi un peu la noirceur du thème.
Oui, la mort est omniprésente, effectivement. Il y a des thèmes très durs comme le racisme, évidemment, la pauvreté, tout ce qu'on... Oui, effectivement, c'est des thèmes très, 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 très noirs.
Ce qui n'était pas dans l'habitude des comédies musicales, c'est-à-dire que les comédies musicales ne faisaient pas de politique, si j'ose dire. Non, or là, il y a un peu de politique dans West Side Story.
Quand vous avez les comédies musicales, vous ne pensez pas tout de suite à des choses tragiques et sombres.
Bien sûr, oui.
Voilà. Comme le bouquin, enfin, bien, la couverture elle est lumineuse. Voilà, mais c'est parce qu'on pense tout de suite à spectacle féerie. Mais alors qu'il y a des comédies musicales dramatiques.
Ça veut dire que West Side Story n'est pas la seule à être dans un registre assez
sombre. C'est l'une des premières.
D'accord.
Mais depuis, il y en a eu des dizaines.
Ouais.
Bon, moi, je vous proposais de traverser l'Atlantique parce que dans les années 60, en France, le musical qui nous enchante, c'est ça.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie.
Je ne penserai qu'à toi.
Reste, ne pars pas. Je t'en supplie, reste mon amour, ce n'est pas encore l'heure.
Je m'éloigne de toi, ne me regarde pas.
Les parapluies de Cherbourg, un film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Quels sont ses autres succès chantants? Parce que là, on est au cinéma, bien sûr.
Vous parlez de Demy?
Oui.
Ben je peux répondre, les Musettes de Rochefort et Peau d'âne. Il y en a eu d'autres, hein, mais ça c'est vraiment les plus emblématiques. C'est cette période des années 60, absolument magique, où tout semblait permis. C'est-à-dire qu'un film de Demy, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait l'imaginer au cinéma, c'est très compliqué.
Pourquoi?
Parce que c'est une musique si particulière, c'est tellement audacieux. Revoyez Peau d'âne.
Peau d'âne, la robe
premier plan
la
avec cette âne qui fait des pièces d'or.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Qui défait des pièces d'or.
On laisse les gens regarder la scène et la surprise. Voilà, c'est impossible.
Et puis, je sais pas si Denis, vous rêviez des robes de peau d'âne.
Mais bien sûr.
Parce que moi, j'en rêvais aussi. Et pourtant, je suis pas couturier. Mais faire une robe couleur de soleil, couleur de lune, couleur de temps, c'était vraiment magique. C'était poétique. Voilà.
Mais est-ce qu'en France, à cette époque, quand on voit ces films de Jacques Demy, on se dit on va voir une comédie musicale, comme on le dit aux États-Unis?
C'est comme toujours, la comédie musicale est multiple. Donc oui, on allait voir une comédie musicale, mais c'était une comédie musicale de Demy.
Donc
tout
il y a les créations
donc
françaises.
Donc avec du haut de gamme.
Et puis à Paris, au théâtre, on adapte aussi des succès américains.
Se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude dans un monde glacé de sang. solitude.
La comédie musicale américaine Hair, version française, Julien Clerc, ça a aussi bien marché que son homologue américaine.
Bien sûr, ça a très bien fonctionné. Et c'était cette époque où il y a aussi d'autres spectacles américains, Godspell avec Daniel Auteuil, Dave, etc. Il y a eu beaucoup de spectacles américains qui ont été adaptés à ce moment-là. Et après, c'est la vague des opéras rock français, Starmania, la Révolution française, etc. etc.
Oui, qu'on a malheureusement pas le temps de raconter maintenant.
Il y a eu un creux entre les deux ?
Il n'y a pas eu de creux, il y a eu Francis Lopez.
Oui, donc c'est une façon de dire qui est un peu vieilli, c'est ça, dans
si
les textes
voulez.
Un peu vieilli. Parce que moi, mon premier contact avec la comédie musicale, c'est Starmania.
Pour tout le monde de notre génération,
voilà.
C'est exactement ça.
Et qui relance le genre en France, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, on peut le dire. Il y avait une rupture de génération. C'est
donc il n'y avait pas grand-chose de créé pendant une décennie.
Lopez.
On y revient, d'accord.
On dit que Paris, c'est vraiment l'une des capitales de comédie musicale depuis 10 ans. Est-ce que c'est grâce notamment à la création et au succès de Notre-Dame de Paris ?
Incontestablement, c'est Notre-Dame de Paris qui a relancé, qui a donné cet appétit à une jeune génération de venir voir des comédies musicales. Un nouveau public.
Il n'y en a pas trop, là, en cette rentrée.
Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a trop ? On le saura en fin de saison, au moment des bilans. Je crois pas, je crois que tout le monde a sa place.
En tout cas, ça a donné le choix. Hein.
Oui, et puis votre livre n'est pas en trop, Alexandre Ravelot, il est passionnant. Musical, histoire de la comédie musicale, vous verrez, on a fait des sauts évidemment dans le temps pour vous raconter ces histoires. Plein d'autres comédies musicales à découvrir, à écouter évidemment, c'est publié chez Chronique Éditions.
À suivre, une dégustation de grands vins sur RTL, on ne se refuse rien.
Vous écoutez RTL.